bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez l'émission Un coin quelque part.
Quelque part dans un coin se cache un bonheur pour moi.
Bonjour, vous êtes dans une nouvelle émission d'Un coin quelque part et aujourd'hui je suis avec Lionel. Bonjour Lionel.
Bonjour, ça va?
Oui, ça va. Et donc, on est ensemble là aujourd'hui parce que vient de sortir aux éditions Seiton con Bravas un livre qui s'appelle oui. Squat et Pirate, chronique d'occupation oui. à Barcelone et ailleurs. Tu es à Barcelone là, toi ou...
Non, là, je suis en tournée pour le livre.
En tournée pour le livre, ça c'est chouette.
Là, je suis sur un parking à Toulouse.
D'accord. Ok.
Voilà.
C'est pas
trop
froid là-bas.
Et donc j'attendais l'appel, ton appel avec impatience. Donc là j'ai commencé une tournée de 18 dates de présentation du livre. Là c'est la troisième date. Aujourd'hui ça sera la quatrième. J'ai fait Grenoble, Marseille, Toulouse. Et c'est super.
Tu es reçu dans des librairies.
Je suis pas habitué à parler, à être l'orateur, à être le protagoniste. Les deux premières dates, j'étais mort de peur, mais hier, j'étais super. C'est super impressionnant. J'espère que ça continue comme ça.
Ok. Ouais. Qui te reçoit donc des librairies, des gens,
non, ça dépend,
des groupes,
ça dépend,
des communautés, des squats même peut-être.
Comment, je n'ai pas compris.
Des squats peut-être mettre.
Même oui, aussi, oui. Ouais. Bah c'est souvent des gens au milieu dans la connexion de la mouvance politique anarchiste ou libertaire.
Oui.
À Grenoble, j'étais au local autogéré. Hier, j'étais à Manifesten à Marseille. Hier, j'étais au kiosque. Il y a quelques librairies, mais c'est des librairies camarades ou alternatives. Ou c'est sinon, ça. Je fais en première partie de concerts aussi. J'en ai quelques-uns ou quelques lieux autogérés, occupés, en effet.
Avant de rentrer dans le cœur du sujet, dis-moi, le livre, du coup, en termes financiers, c'est une auto-édition
ouais.
C'est une auto-édition, et là ta tournée, c'est toi qui la finances ? Comment ça se passe ?
Alors moi, c'est tout auto-financé, auto-géré à 100% par moi-même. J'ai avancé l'impression, tous les frais, à 100%. Là, je suis en train de récupérer la mise, que ça va pas tarder. Et je tiens à dire que tous les bénéfices, enfin tout ce qui sera à la fin sera versé à une caisse de résistance, parce que je pouvais pas traiter d'un sujet aussi politique que le squat. On est toujours dans la lutte en tant que squatteur, et ça me semblait normal de prioriser une idée comme ça, quoi, de reverser des fonds, au moins que ça serve à quelque chose, non ? Voilà. Et je suis content, c'est cool. C'était important pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui étaient préoccupés par ça.
Ah oui, voilà. Ok. Dans les questions qui te sont posées.
Forcément, ça touche tous les anciens squatteurs. Les squatteurs, ils sont attirés par un ouvrage comme ça. Et c'est un sujet épineux, hein, le squat. Hein. Et il y a tout le temps des embrouilles. Ils disent, mais sans soutien. Ah ben, c'est différent, du coup. Voilà. Voilà.
Ok. Comment t'es venue l'idée, parce que au-delà de ta vie propre de squatteur ou de tout ce que tu as fait d'un point de vue politique, d'où t'es venue l'idée de faire un ouvrage là-dessus ?
L'idée, quand j'ai dû ouvrir une maison à Barcelone parce que je me suis séparé de la mère de mon fils et j'étais avec mon fils un peu à la rue, j'avais plus les moyens de payer un loyer, puis il n'y a pas eu de choix, quoi. C'était retour en France et puis mon fils voulait continuer sa vie là-bas. Ça aurait été dommage de le priver de son entourage. Eh ben, il n'y a pas eu le choix. Il a fallu commencer à contacter des gens, faire des rondes et j'en ai eu une première occupation qui a très bien fonctionné, puis une deuxième qui s'est fait plus en collectif avec des syndicats de logement et donc voilà, ça fait 10 ans que je vis par ce mode-là. Bah, c'est nécessaire, hein, c'est pas un choix. Hein. Enfin, c'est une nécessité, en fait.
C'est une nécessité, c'est pas un choix. Alors, ça, c'est vrai que c'est une chose qui est compliquée à chaque fois d'évaluer qu'est-ce qui est de la nécessité, de l'obligation, du subi versus du choisi. Bon, c'est pas toujours aussi simple que ça, la vie, c'est pas binaire à ce point-là. Mais du coup, eu égard au fait qu'on dit souvent, voilà, et tu viens de le redire toi aussi, que c'est un choix quand même politique quand il est fait.
Tout à fait.
Du coup, c'est quand même pas que subi, même si c'est subi ce que ça engendre, par exemple, de violence ou par exemple d'expulsion, etc. Mais c'est pas... C'est pas ça qui fait qu'on arrête, visiblement.
Non, parce qu'on a aussi une certaine forme de liberté aussi. Moi, je voulais vivre avec mon fils. Et bon, je travaille un petit peu, mais je travaille. Du coup, je travaille pas à temps complet, quoi. J'ai du temps pour partager avec lui. Ça me donne une certaine forme de liberté, et ça me donne aussi du temps pour faire de la lutte, pour militer, pour construire d'autres choses avec d'autres gens, quoi. C'est important. Il y a le occuper pour avoir un logement. Bon, c'est la base, parce que le logement, ça devrait être inscrit dans la Constitution, le droit au logement. Ça, c'est la nécessité. Mais par choix aussi, on peut ouvrir des lieux politiques, des centres sociaux pour organiser des concerts, etc. Je suis aussi là-dedans, et c'est un monde incroyable. On a plein de rencontres, on apprend beaucoup, beaucoup plus que ce que je disais hier. Moi, je répète avec plusieurs groupes. S'il faut que je demande un local à la mairie de mon village ou de ma ville, ça va prendre du temps. J'aurai des contraintes. Si j'ouvre un lieu, j'aurai de l'espace pour la création et faire de la politique militer, quoi. Donc, c'est un espace de liberté très intéressant. Je sais pas si ça va durer beaucoup de temps, encore longtemps, mais dans le monde, on est de plus en plus pressé. Je m'égare un peu, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est bien. Voilà.
Alors, donc il y a deux termes déjà qui sont utilisés. Il y a, comme tu viens de le faire, il y a celui de squat, puis il y a celui d'occupation. Est-ce que, du coup, squat, j'ai vu que tu rappelais dans ton introduction, dans ton livre, que ça vient de l'anglais s'accroupir.
Tout à fait.
Et l'occupation, elle a tout de suite une connotation militante, je
Oui.
trouve. D'accord. Quand est-ce qu'on emploie un terme plutôt que l'autre, ou est-ce que ce sont des représentations différentes ou...
Je ne sais pas. Bon, ça vient surtout des pays, quoi. Parce que en Catalogne, en Espagne, le mot squat ne sort jamais, en fait. Et en France, on dit tout le temps squat.
Ouais,
Et occupation, je sais pas si je dis occupation en France, ça va plutôt invoquer une occupation de terrain, comme peut-être une ZAD ou quelque chose. Je sais pas comment tu le vois, toi.
ouais, c'est
Mais
vrai.
en Espagne, c'est vraiment ocupación. Et en Espagne, il y a deux choses différentes. La ocupación qui s'écrit avec un K.
Oui.
En fait, c'est une occupation clairement affichée politique,
D'accord.
avec des revendications politiques. Et l'occupation avec un C, c'est une occupation, c'est toutes ces familles en Espagne qui galèrent, des mères célibataires avec des enfants qui ont pas le choix de squatter un appart pour se vivre. Et ça, généralement, on dit c'est une occupation avec un C.
Ok, donc
Je
il
sais
y a
pas si je me
une
suis bien fait
lettre. Ah
comprendre,
oui,
mais
c'est très
voilà.
très clair. Une lettre qui donne déjà le
Qui
ton
donne le ton.
de quoi on parle. Ok, d'accord.
Voilà.
Et
Ça
alors
sera
dans...
pas le A de anarchie, ça sera
Non,
le
c'est ça.
K de Okupa.
Occupation. Dans ton livre, donc, qui s'appelle Squat et Pirates, les pirates, ce sont
Oui.
uniquement les squatteurs ou bien ceux qui ouvrent les maisons, les lieux d'occupation et de squat, ou qui sont les pirates?
Les pirates, c'est un peu, bon, c'est un peu tout le monde. Moi, j'ai donné ce livre parce que, en fait, bon, moi, je fondais dans un immeuble de plusieurs étages et ma voisine du dessus, parce que le squat, c'est quand même fatigant. Bon, c'est super, on a plein de bonnes choses, mais c'est pas tout le temps. Il y a plein de gens qui croient que vivre en squat, c'est faire la fête. C'est pas du tout ça, quoi. C'est compliqué au quotidien. Il y a des luttes, des fois on nous coupe l'eau. Enfin, économiquement, c'est difficile. Ma voisine du dessus, qui a des dettes de son père qui va le suivre pour la vie. Elle me dit, mais Lionel, je rêve de louer un appartement, je rêve d'être déterré au travail, mais si j'ai des fiches de paye, ils vont me saisir mon salaire. On est obligé je suis obligé de vivre comme ça en squat, mais c'est une vie de pirate en fin de compte. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah, je vais appeler le livre comme ça, quoi. Squat et pirate. Je trouvais que c'était un bon exemple, quoi.
D'accord.
Voilà.
Ok. Alors, l'objet de ce livre, c'est donc le terme chronique est un terme que j'aime beaucoup, qui permet de dire à la fois, je suis pas dans l'exhaustivité des choses, je suis là pour à la fois raconter, donner la parole à des gens, puisque là, c'est pas simplement. Il y a des textes que tu as écrits toi, il y a des textes
Ouais.
dans lesquels ce sont comme des entrevues, comme on est en train de faire, des interviews
Tout à fait.
avec des gens, des personnes diverses et variées, et puis des choses ou des textes, même parfois, sont complètement écrits par d'autres. D'accord? Comment ça
Oui.
s'est passé, ce travail-là de récolte?
L'histoire de comment c'est parti, en fait, après la première occupation de ma maison qui était une réussite, je me suis mis, parce que moi, dans le passé, j'ai fait beaucoup de fanzines sur le hardcore punk grind. Je viens de ce milieu-là, DIY. Et une après-midi, j'ai commencé à écrire mon texte. Tiens, je vais écrire ce qui s'est passé pour occuper cette maison. J'ai passé une semaine. Et je l'ai fait lire à ma compagne de l'époque et elle s'est mise à pleurer. Elle fait, ah bon ? Ah, me dit, mais c'est super. Et donc après, j'ai demandé à une ou deux personnes que je connaissais d'écrire quelque chose, et puis c'est arrivé, puis je voulais faire une brochure, un fanzine, et puis après, je me suis dit, mais j'ai pensé, mais pourquoi tu ferais pas un livre là-dessus, en fait ? En fait, il n'y a personne qui raconte ce qui se passe derrière ces murs, quoi. Donc j'ai eu des débats avec plusieurs personnes, si c'était bien ou si c'était pas bien. La plupart des gens ont trouvé ça cool. Bon, il y a toujours des réticences, c'est le milieu un peu fermé, obscur, d'un squat, faut pas raconter. Mais en fait, ce que la police, elle peut lire le livre, elle va rien apprendre. Hein. Notre ministre de l'Intérieur non plus. Hein. Mais il y a plein de gens, moi il y a des gens qui m'écrivent, qui ont acheté le livre, qui sont même dans la scène punk, un peu en dehors. Je dis, oh, putain, mais c'est la première fois qu'on comprend vraiment ce qui se passe, quoi.
Ah oui,
C'était un peu cette idée-là, quoi. Parce que c'est un peu, oui, bah, samedi soir, on va au squat, il y a un concert, c'est super, on boit des bières, puis on rentre. On met 5 euros dans la caisse de résistance. Mais tous les gens qui font le travail de repérage, des travaux, et puis tout, enfin, qui choisit cette chambre, enfin, tu vois, c'est fou, quoi, tout ça, c'est obscur et c'est usant, et il y a tellement de gens qui l'ont vu. Et il y a beaucoup de gens qui me le disent sur cette tournée, c'est que. C'est la première fois un peu que ça sort dans un ouvrage, donc je suis très fier. Et puis je veux dire que tous les gens qui ont participé l'ont fait avec plaisir. Et ce que je veux dire aussi qui est très important, il n'y a aucune, mais alors d'aucune manière, on est là pour donner une leçon, pour expliquer aux autres gens ce qu'ils doivent faire, qu'ils soient squatteurs ou pas. C'est pas une compétition, c'est juste un témoignage, quoi, une transmission d'idées. Voilà.
C'est juste ça.
Il n'y a d'aucune manière, on va expliquer à quelqu'un que nous, on est mieux, etc. Tu fais ce que tu veux, tu travailles, tu loues, mais c'est super partager cette expérience. Quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi.
D'accord. Alors, je suis très étonnée parce que nous, ici, à un coin quelque part, il y a plusieurs personnes que j'ai déjà interrogées sur soit des personnes qui elles-mêmes sont en squat, soit des gens qui organisent les ouvertures. Enfin, il y a plusieurs. J'ai fait plusieurs émissions comme ça, et donc je pensais que c'était beaucoup plus connu que ça désormais, parce que ça fait quand même plusieurs décennies que ces choses-là existent et se passent, et que donc, on savait bien que les médias mainstream évidemment peuvent parler du fait que c'est simplement pour faire la fête, pour salir, pour casser, pour je sais pas quoi, enfin bref, des choses comme
la
ça.
Drogue.
La drogue. Oui, la drogue, j'ai oublié, pardon, tu as raison, la drogue. Voilà. Mais je pensais que sinon, ailleurs, dans les autres, voilà, on sait les difficultés de mener un collectif, de faire en sorte que les choses se passent plus ou moins bien. On connaît toutes les stratégies, les tentatives. Enfin, il y a eu beaucoup de choses quand même qui ont été, me semblait-il, écrites là-dessus. Mais bon, d'accord. Tant mieux si c'est quelque chose qui ouvre des horizons à des personnes. C'est vraiment
comme je
super.
Dis, je peux peut-être me tromper. Hein. Il y a sûrement des choses écrites auxquelles j'ai pas eu connaissance parce que je te dis, je suis pas la prétention de tout savoir.
Non.
Vu qu'il y a un ou deux textes qui sont écrits explicitement, il y a vraiment des gens. Là, regarde-moi à Marseille, il y a des gens. Il y a deux jeunes gens qui commencent leurs études, qui sont venus. Qui ont acheté le livre et à la fin ils sont venus tous les deux. C'était deux jeunes filles. J'étais avec une amie qui a une longue historique de squat. On peut vous parler 10 minutes? Je fais, bah oui, qu'est-ce qui se passe? Bon, nous on est dans la merde, hein. Faut vraiment vous nous expliquer comment on ouvre un squat. C'était un moment magique. Bon, moi, j'ai pas expliqué. J'ai dit comment j'avais procédé, les petits trucs qu'il y avait à faire, comment on repère, etc., aller au cadastre ou tout ça. Et puis, un petit peu vis-à-vis de la loi, parce qu'aujourd'hui, en 2024, on n'ouvre plus un squat en donnant un coup de pied dans une porte. C'est différent.
Voilà.
Et c'était des moments vraiment magiques, quoi. C'est super intéressant, ce rôle de transmission, quoi. C'est cool, quoi.
Alors, il y a la transmission, comme ça qui peut se faire en direct. Et il y a ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, le grand plaisir que j'ai eu à lire ce livre-là, le tien, c'est qu'en fait, c'est comme un documentaire qui permet effectivement à la fois de consigner, pas simplement, au-delà même des pratiques. J'ai trouvé un joli mélange entre des choses émotionnelles, humaines, versus des histoires personnelles, des gens qui disent, ah ben là, j'ai galéré comme ceci, puis j'ai fait ça, puis je suis allé là-dedans. Et donc, ça ouvre le paysage de la multiplicité en fait des personnes qui sont amenées, quelles que soient les raisons justement, à vivre dans un squat. Et qu'est-ce qui est découvert là? En effet, tu donnes pas, il y a pas de leçon donnée, mais quand même parfois il y a des choses. Tu me permets de lire un petit texte
Ah ben complètement, j'adore.
Il y en a un à la page 151 que j'ai trouvé très intéressant parce que c'est quelqu'un, donc on ne sait pas qui c'est quelqu'un qui s'appelle un du groupe des 100 groupes, donc ça c'est déjà assez joli, on est donc à Lyon. Vois-tu, ami Bobo, dans cette forêt aux mille visages, j'ai vécu quelque temps. Pour le pire et le meilleur, je dois le dire, mais c'est sans regret. Si je te conte cette histoire, l'ami, c'est que d'ici quelques semaines, il pourrait te prendre la folie d'aller y souiller tes bottines à la rencontre de quelques autochtones. Et, paradant dans ces bois qui furent mes amis, je ne voudrais pas que tu n'y vois qu'une version rustique de ton bois de Boulogne. Vois-tu, mon bon innocent ami, sous les couches d'humus qui craqueront sous tes pas, sous l'empreinte boueuse de ta chausse, un jour, des archéologues exhumeront une telle variété d'étrangetés qui ne sauront situer dans leur frise de l'évolution leurs liens historiques. Figurines taillées au canif dans du frêne, vieilles canettes de bière rouillées, fourchettes piétinées, blagues à tabac en cuir, autant de traces d'une vie méconnue, autant de traces d'une histoire restée dans l'ombre des grandes actions publiques qui ont fait la ZAD. C'est un fragment de cette histoire que je veux en fait te conter. Et je trouve ça très joli parce que c'est à la fois c'est de la littérature, c'est poétique, il y a beaucoup d'humour à plein de moments dans ce livre.
Ouais. Ah ça, si je le précise, c'est un texte qui a été fait, je ne sais pas si tu te souviens, la ZAD de Roibon.
Oui.
Bon c'était roi, à côté de bon entre Chambéry et ouais, Lyon, et ils ont gagné en fait le village Pierre et Vacances n'a pas pu se faire. Donc
absolument.
Bon là,
c'était un combat assez,
plus, mais bon, c'était bien de signer. Oui, il y a plein de gens qui, la créativité du monde des squatteurs, enfin dans l'écriture, est assez un problème. Il y a vraiment des jolis textes. Je suis vraiment content, quoi. Tiens, je vais faire une petite parenthèse.
Vas-y.
J'ai fait des choix aussi. Bon, c'était un petit peu après des années au fil des rencontres aussi. Des gens que je rencontrais, je leur proposais des interviews, d'écrire quelque chose, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas, et j'aurais adoré qu'ils y soient. Mais après coup, j'ai fait mince. Et je veux dire, j'ai fait le choix pertinent aussi de ne pas aller vers les gens des lieux très très connus, quoi, par exemple. Parce qu'il y avait un peu trop de publicité, comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Bon, tout ce qui s'est passé, c'est incroyable, mais bon, on en a déjà tellement parlé, tellement de choses. Bon, je me suis dit, on va peut-être aller voir des autres endroits un petit peu petits. C'est comme à Barcelone, Casa de Montaña ou Blanques Fantasmas. C'était peut-être pas possible, pas la peine de faire un truc là-dessus, parce que c'est tout le temps médiatisé. Il y a des petites personnes qui seraient OK pour témoigner, qui font des petits trucs incroyables aussi, quoi. Voilà.
Oui, tout à fait. Mais il y a quand même quelques grands. Tu parles quand même des Lentillères, tu parles d'Izmir, Saint-Étienne. Enfin voilà, il y a quand même quelques lieux
Izmir.
un peu.
Ah bah, Izmir, c'est marrant parce que j'avais jamais fait d'interview. Et là, au festival de 20 ans de la France puis à Saint-Étienne, il y a 4 ans, j'étais là tous ensemble pour revenir voir le copain. J'ai fait, c'est pas possible. Ah, faut que je les chope ce soir, quoi. C'était exaltant, on va dire. Voilà.
Oui, c'est ça. En plus, c'est comme tu y vas petit à petit. Dans, on voit dans les questions, tu avances petit à petit sur les, sur les, sur les thématiques. Est-ce que parfois un reproche qui est fait dans, à ces milieux-là, à ces mondes-là, c'est quelque chose qui serait, comment dire, quelque chose de... est-ce qu'il n'y a pas trop de l'entre-soi dans ces typologies-là?
C'est-à-dire entre-soi,
trop fermé, est-ce que
tu veux dire?
Ouais, trop fermé. Est-ce que c'est à plusieurs endroits tu évoques d'ailleurs cette question de, tu poses la question aux gens, mais quand t'es arrivé la première fois dans un squat, est-ce que t'as pu facilement t'intégrer entre guillemets, je me passe mot, mais rentrer,
c'est un peu,
etc.
Ça change un peu, je trouve maintenant, parce que je trouve que le mouvement squat en France est de plus en plus ancré dans les mouvements sociaux, ça se trouve plus facilement. Je sais que moi à Barcelone, le squat, l'occupation, c'est vraiment intégré dans les mouvements sociaux, ça brasse plein de gens.
Oui.
Avec son pour et son contre, parce que c'est un sacré débat.
C'est-à-dire son pour et son contre?
Parce qu'il y a des gens, ils passent ici 2 ans pour se faire un petit loisir, puis ils partent, quoi. C'est épuisant.
Il n'y a pas d'engagement.
Mais bon, c'est vraiment large comme sujet. Mais c'est bien aussi que, parce qu'en catalogue, le mouvement squat est dans les mouvements sociaux et c'est accepté par une grande partie de la population, quoi.
Oui.
Quand il y a des choses politiques de lutte contre la gentrification, par exemple, c'est intéressant.
Ouais.
Mais moi, je me rappelle à Lyon, moi, j'ai découvert, à 17 ans, j'ai eu la... Je remercierai jamais d'avoir mes parents m'avoir envoyé à l'école à Lyon quand j'avais 17 ans, 1990. Parce que c'était l'effervescence des squats à Lyon. C'est là que j'ai tout. Bon, je suis de Saint-Etienne, attention. Hein. Non, c'est une petite blague, c'est une petite blague. Donc j'étais à Lyon et j'ai découvert plein de choses, quoi. Mais je me rappelle, effectivement, je vais le nommer, il y avait un squat mythique qui s'appelle Volnitza à Lyon. Et moi, il y avait un fly que je vous ai, un groupe qui s'appelle Schwarzenegger. Je voulais aller voir. Des Américains, et je savais pas à quelle heure ça commençait. Bon, ça commençait à 11h, minuit, et à 9h, j'ai tapé à cette vieille porte en bois. Il y a un gars avec moi, j'avais 17 ans, avec des dreads, tout tatoué qui move. Il m'a regardé, je fais je viens pour le concert. Il m'a regardé, mais c'est qui lui? Je dis, mais c'est pas tout de suite, repasse plus tard, et boum, il a refermé la porte. Et ben, je suis pas retourné voir le concert, je suis rentré chez moi parce que j'étais pas en confiance, quoi. Ça me faisait peur. C'est pour ça qu'on rentre des lieux dont des fois personne connaît. C'est bien d'y aller mal accompagné ou que quelqu'un vous accueille, mais aussi il y a beaucoup de méfiance, il se passe tellement de choses. C'est compliqué, hein. C'est trop compliqué. Moi, je sais que j'ai pas les connaissances ou je suis pas un grand Thatcher pour accueillir les gens. Bon, maintenant je le fais un peu plus, mais des fois c'est compliqué, quoi. Voilà, c'est tout un débat, c'est intéressant. Hein. C'est plus. C'était comment les termes? Centripède, je sais plus. Durant on va, pour rentrer c'est difficile, et pour aller vers l'extérieur aussi, et s'ouvrir c'est compliqué. Ça dépend des gens, des lieux. Voilà.
Alors, il y a plusieurs constantes dans les lieux d'occupation, dans les squats. Il y a souvent le fait que c'est pas toujours les mêmes personnes qui ouvrent et celles qui y vivent après, même si ceux qui marchent mieux, on l'a vu quand même, c'est là où c'est les mêmes. C'est-à-dire que ceux qui ouvrent sont ceux qui sont engagés dans le processus ensuite. Il y a la question de l'autogestion. Il y a la question des activités. Donc, ce que tu disais, on est ouvert ou pas sur l'extérieur. Donc, il y a quand même pas mal de lieux, et pas simplement avec des artistes, mais avec des lieux de vie dans lesquels il y a des choses qui s'ouvrent pour les habitants du quartier. C'est une pratique quand même de plus en plus importante. Ou des concerts, donc là, c'est pas que du quartier, des choses plus larges comme ça. Et puis, il y a, je trouve, en tout cas en France, une espèce de, j'allais dire, une habitude. C'est pas exagéré, c'est pas une habitude, mais quand même, beaucoup de lieux qui sont ouverts pour d'autres, et notamment pour ceux qu'on appelle les migrants.
Tout à fait.
Toutes les personnes qui donc arrivent et n'ont pas de lieu pour éviter qu'elles soient dans des tentes le long de boulevards. Est-ce que du coup ça c'est, comment dire, est-ce que c'est la même chose ça?
C'est la même chose à quel point de vue?
Mais que ceux qui choisissent, entre guillemets, comme on le disait tout à l'heure, ceux qui se décident pour aller habiter, aller mener ce mode de vie, c'est pas exactement pareil, non?
Alors moi personnellement, je n'ai jamais participé à l'ouverture pour des squats de migrants, mais dans mon entourage, j'ai énormément de gens. Et moi, j'habite dans un immeuble qu'on a ouvert, on a cédé deux appartements à la population rome. C'est très intéressant. Du coup, il y a plein d'enfants, c'est super. Et non, mais les gens qui ouvrent des squats, bah tu dois le savoir toi-même, les gens qui ouvrent des squats pour les migrants, c'est des gens qui sont engagés à 100%, qui croient en une cause, qui laissent leur peau, qui s'arrachent la peau pour essayer de donner un espace. Enfin, ça, je vous apprends rien, cher auditeur, pour donner un espace à ces gens. Je sais pas comment expliquer, mais après, ce que moi, dans mon entourage, ce que je fais, ce que je vois, c'est que après une ouverture, en fait, ils essayent. Les squatteurs qui sont au premier cercle, ils essayent en fait d'intégrer les migrants ensuite pour essayer de s'autogérer dans ce lieu et de participer aux activités.
Oui.
Enfin, les tours de, je sais pas, ménage, etc., cuisine, quoi. Ils essayent de faire qu'ils soient acteurs aussi. Alors, des fois, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup de conflits. Mais des fois, ça marche. Il y a, on parle de Casa Africa, tu vois, dans le livre.
Oui.
C'est vraiment un des meilleurs amis qui, pendant des années, qui est ouvert pour les migrants. Et il explique à la fin, dans le centre de Barcelone, ils ont un immeuble de 3 étages. Les migrants, c'était beaucoup des Guinéens, hein, des Sénégalais. Et oui. À la fin, les 2 dernières années, ils se sont autogérés tout seuls, quoi.
Et donc ça, c'est un squat qui a duré longtemps.
En fait, oui, c'est ça. Génial, quoi.
Ça a duré longtemps, ce squat-là.
Ouais, 2 ans. Mais bon, là, c'était vraiment dans l'hypercentre barcelonais, en face du Décathlon, quand t'es à Ramblas, je t'explique même pas, quoi. Mais ça a tenu longtemps. Mais c'est une grande victoire, quoi. Ils faisaient des assemblées, ils décidaient.
Oui.
Je trouve ça incroyable, quoi. C'est le but, quoi. C'est comme aux îles Canaries, tu vois. Il y a ce récit aux îles Canaries, il y a toute l'économie est basée sur le tourisme, il y a 30% de chômage, il y a énormément d'arrivées de migrants, c'est une catastrophe ce qui se passe là-bas. Et tous les programmes immobiliers en construction ont été arrêtés des années, et la Fédération anarchiste des Grandes Canaries a commencé à occuper des grands ensembles d'immeubles vides. Avec les populations de migrants, de travailleurs qui avaient perdu leur emploi. Et au début, ça a commencé à fonctionner avec une assemblée verticale. Ils se sont rendus compte que ça marchait plus. Ils ont continué en assemblée horizontale. Et ceux qui avaient ouvert, ils se sont retirés. Et aujourd'hui, il y a 5 communautés. Non, les 2 derniers, il y en a 2 qui se sont fait expulser quand même. Et ils s'autogèrent entre eux d'une manière horizontale. C'est assez incroyable. D'ailleurs, si vous parlez espagnol, on dit castellano, sur YouTube, il y a un super document qui s'appelle Precaristas, précaire.
Oui.
Tu mets Precaristas Islas Canarias, c'est un document 50 minutes et tu vois, ça filme les assemblées, les gens sont interviewés, comment ça, c'est incroyable, quoi.
D'accord.
Voilà, je vous encourage à le voir.
Ouais. Comment tu expliques qu'ils aient réussi là, à ce point-là, là où quand même pas mal d'autres ont eu plus de difficultés?
Moi, je pense que le territoire des Canaries, c'est un truc qu'on peut pas comprendre, quoi. C'est comme des mini-prisons, et puis là, c'est exponentiel, la pauvreté, en fait. Et puis les autorités sont incapables de donner une réponse, quoi.
Et du coup, du fait qu'il n'y a pas du tout de réponse, ça pousse les gens à mieux s'organiser, tu dirais ?
Ah bah oui, les gens, ils n'ont pas le choix, bien sûr. Parce que les gens, ils essayent de passer par les moyens légaux. Et au bout d'un moment, ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Ah bah, il y a ça, je vais aller voir, je vais aller frapper à la porte. Ça, c'est surtout les syndicats de logement, syndicats d'habitation en Espagne qui ont eu les quelques dernières années qui ont été très forts. Qui sont organisés par quartier, qui offrent cette possibilité, s'organiser de manière horizontale, à parler aux propriétaires, une hausse de loyer injustifiée, ou qui veulent cesser le bail, et des fois, en ultime recours, à squatter des maisons, quoi. Ou bloquer des expulsions locatives. Moi, j'y vais très souvent. Et ça a marché pendant très longtemps, en fait. Bon, maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que les autorités ont compris comment ça fonctionne. C'est beaucoup plus répressif, mais ça a marché pendant 4 ou 5 ans vraiment très, très bien, quoi. Et là, par exemple, à Barcelone, pendant le Covid, il y a eu un espèce de lancement de grève des loyers. Qui a bien fonctionné aux Canaries. À Barcelone, ça a pas trop pris, mais là, Barcelone, c'est assez terrible avec la gentrification. Et là, il y a une grande manif nationale dans toute l'Espagne le samedi 23 novembre, c'est le préambule d'une grève des loyers, quoi. Voilà. Les gens, ils veulent dire basta. on n'en peut plus, on ne peut plus payer. Bon, après, combien de pourcentage de gens suivent cette manif sur 100 personnes, je sais pas, je dirais 5, 6, mais c'est quand même énorme. Hein. C'est un impact social, ça c'est énorme. Ça, mais c'est un gros message envoyé aux autorités. C'est super intéressant dans l'organisation. J'ai pas eu vent dans d'autres pays d'organisation comme ça. Comme je le dis, je connais pas tout.
Mais c'est du cool coup, de voir ça. Quoi. Tu connais quand même pas mal la France. On est d'accord que c'est quand même très différent, non, ce qui se passe en Espagne et ce qui se passe en France.
Complètement différent. Okay. Complètement différent. Complètement différent. Je pense que c'est en train de changer parce que l'Espagne, ça a toujours été lié aux mouvements sociaux, les squats.
Oui.
Mais je trouve qu'en France, c'est en train de complètement changer avec les lois travail, les gilets jaunes. On a profité de ces mouvements pour ouvrir des lieux. Les portes sont moins fermées, les gens s'ouvrent plus. Moi, je trouve ça super, quoi.
Ok, tu penses que c'est en train de bouger.
Moi, tout ce que j'ai vu à Saint-Etienne et à Lyon, parce que je parle des villes que je connais.
Oui.
Je peux pas parler de Paris, je suis désolé. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool, quoi. Et du coup, il y a plein de gens qui se connaissent. Ils commencent des collectifs.
Oui.
Ils se mettent en route. Enfin, c'est incroyable, quoi. Je trouve ça cool. De toute façon, je crois qu'on n'aura pas le choix. Il faut s'organiser, là, parce que tout ce qui est en train de nous tomber sur la tête.
Ouais.
Et ça sera de pire en pire, quoi. Mais c'est bien aussi, ça amène beaucoup de chaleur humaine. Il y a beaucoup de conflits, mais ça apporte beaucoup. Je trouve ça cool.
Into my street with the nonsensist haircut, dirty feet, the dogs, cats, the lyrical elite. They may have bags, but they don't use sheets. Furnishing their houses from the contents of skits. Things that decent people put on rubbish tits. They look quite harmless sitting out in the sun.
Par exemple, j'ai entendu des gens parler de choses en Allemagne ou en Belgique qui ressemblent un peu à ce que tu décris là en Espagne et en France. Ok, toi tu dis on est en train d'arriver là-dessus avec des mouvements.
Ouais, on est en train d'arriver là-dessus, moi je pense.
Ok, ouais. Avec des choses un peu plus partagées, des collectifs qui se...
Partagées. Bah, on a toujours la différence de squat, ou le collectif de toughers qui fait une rave party, ou les squatteurs qui font du punk, bon... Maintenant, peu à peu, les squatteurs ont une réalité sociale, ils veulent s'ouvrir sur les gens, ils disent bah, « nous aussi, on est en train de souffrir, cette société, il se passe quelque chose, il n'y a plus d'allocation chômage, on coupe le RSA, c'est impossible de louer un appart, il y a de la répression, on fait une manif, on se fait péter un œil, enfin voilà quoi. » Et tous les grands mouvements, tous les grands mouvements de résistance pour les projets inutiles,
oui.
Qui en France, moi je pense que c'est ce qui se passe, c'est incroyable aussi, ouais, quoi. Ouais. Ça me paraît fou, quoi. Et il y a 2-3 textes qui parlent de ça dans le livre, notamment la forêt d'Ambach en Allemagne, la Matt qui a eu à Girona, Roibon, ouais. Mais ça on pourrait faire 4 volumes avec toutes les résistances de territoires inutiles.
Donc tu as parlé beaucoup de Saint-Étienne, de Lyon, il y a Rennes aussi, non ? Il y a un des textes, je ne sais plus où, à quel endroit ils sont dans ton livre, mais il y a des textes sur beaucoup beaucoup de lieux qui ont été ouverts à Rennes. Tu y es allé toi aussi pour les rencontrer ?
Alors moi, Rennes, je ne connais pas du tout.
Non, ok.
C'est ultra bizarre. Moi, Bretagne, toute cette partie où il y a beaucoup de mouvements, super actifs, je ne suis jamais allé
et
dans cette
région-là. Et donc, comment tu les as eus, alors, ces textes-là ?
Mais bon, j'ai des amis que, par l'intermédiaire de la scène punk, DIY, que je croise depuis des années. Et c'est un ami qui m'a écrit un jour, je lui ai proposé un texte, parce que j'avais qu'il était dans la lutte politique et le mouvement des squats. Et je m'attendais qu'il m'écrive un texte, ses impressions. Et quand j'ai reçu ça, j'ai fait « Waouh !» Ah mais c'est une encyclopédie ça. Donc il a fait tout un historique.
C'est ça, je trouve. C'est assez complet sur tout ce qui s'est passé là-bas.
Moi je suis pas de Rennes, je peux pas dire si c'est complet ou pas, d'accord. Mais ça m'a impressionné. J'ai fait ah ouais. Voilà. C'était son désir.
Ok, voilà. Non, dans le livre, je ne savais pas, du coup, je pensais que c'était avec toi, enfin que tu étais...
Pas du tout. J'ai reçu le truc, j'ai fait « Ah !» Il m'a dit « Ah, tu vois, j'ai fait ça, ça me semblait bien, c'est parfait. » En plus, c'est le seul texte qui est comme ça, c'est bien un petit peu de mettre une historique des dieux. Oui. En fait, ce qu'on voit dans ce texte, c'est que chaque mouvement social, il y a une ouverture.
Oui.
Bon, c'est peut-être caractéristique à la ville de Rennes, hein, qui est vraiment... en pointe aux matières des luttes.
Oui.
Je crois. Hein,
Oui, il y a pas mal de choses qui s'y passent, c'est sûr.
Donc, c'était intéressant. Voilà. C'est important de le dire. Je crois que c'était son message aussi. Voilà.
Tout à fait. Tu n'es pas sans ignorer, j'imagine, la loi Kasparian qui est passée l'année dernière, il y a 2 ans, je ne sais plus comment on vit là maintenant, mais qui s'est appelée du coup la loi anti-squat et qui en tout cas durcissait toutes les possibilités d'occupation et de résidence ou de logement dans des lieux qui n'étaient pas faits pour l'habitation, hein, c'était ça leur affaire, et pour donc conserver leurs biens aux propriétaires qui se trouvaient les pauvres démunis des lieux qu'il laissait par ailleurs inoccupés. Est-ce que tu as remarqué ou tu dirais que ça a changé des choses par rapport à ce qui avait lieu juste avant ou pas vraiment ?
Je peux pas le dire. Moi, j'ai l'impression que ce texte, il est surtout fait pour le mythe du... je le dis tous les soirs, et ça fait marrer tout le monde, mais c'est une réalité. Du mythe de la petite mémé qui va acheter son pain et 10 minutes après retrouve des squatteurs dans sa maison. Je crois que ça n'existe pas, quoi.
Bah non.
Mais j'ai l'impression que c'est ce message qu'ils essayent de faire passer, quoi. Mais c'est pas possible, quoi.
Ah ouais, tu penses
que... parce que ça n'existe pas. On a une image. De toute façon, j'ai l'impression que dans les médias, on n'arrête pas de parler. Alors en Espagne, le sujet qui est numéro un dans les... En France, c'est l'immigration. Hein.
Oui.
On allume, chaque fois que je reviens, on allume la télé, les journaux. L'immigration, c'est méchant, c'est pas bien. C'est la fin du monde. Ok, d'accord. En Espagne, le sujet numéro un depuis des années, c'est les squatteurs.
D'accord.
Tout le temps. Toutes les élections. Et parce qu'en Espagne, il y a énormément de familles qui squattent des logements. La plupart du temps, c'est des femmes séparées avec des enfants. Mmh. Bon, il y a tout un trafic de mafia, etc. aussi. Enfin, c'est compliqué. Mais en France, je sais pas pourquoi ils ont. Je crois que c'est un prétexte, une loi de plus pour cacher. Je crois que c'est un prétexte. En fait, l'État a toujours besoin d'un ennemi, quoi.
Oui.
C'est comme Tarnac, quoi. J'ai l'impression que là, si on prenait les squatteurs en tant qu'ennemis, ça serait pas mal, quoi.
D'accord. Tu penses
parce que moi, je connais personne qui est parti en week-end qui s'est fait squatter sa maison, quoi. Enfin, non. Je sais pas. Les squatteurs politisés. des squatteurs politisés, ils vont squatter un gymnase vide, des bâtiments industriels ont utilisé depuis des années. Nous, nous, c'est ce qu'on fait, quoi. Moi, je vais pas aller squatter la maison de... Je sais pas. Et j'ai l'impression que tous les cas médiatiques qui sortent sur des fabuleuses chaînes de télé comme BFM, etc. Oh, les squatteurs, mais quand on creuse après, c'est toujours des histoires de loyers impayés, en fait.
Ouais.
J'ai l'impression qu'on utilise mon squatteur à toutes les sauces sans savoir. Alors, pourquoi ce monsieur Casbarian? Je sais pas, c'est un espèce de politique lobbying, il a voulu marquer son nom. Il y a plein de raisons, je sais pas, mais... C'est curieux. En tout cas, cette période, cette personne, je ne sais pas si tu l'as vu, a remercié personnellement Elon Musk de X Twitter, la facilité de sa nomination comme ministre dans le gouvernement Trump.
Voilà.
Donc ça explique bien des choses et je pense qu'on va avoir... Il y a du souci à se faire. Quoi. Mais en Espagne, le squat, c'est vachement plus que reconnu de... Je sais pas en France, à Paris, je sais pas, mais des familles qui squattent des appartements, monsieur tout le monde, pour pouvoir suivre, c'est une pratique vachement plus développée, quoi. Et la plupart du temps, les voisins vont pas s'offusquer, quoi, parce qu'il y a énormément, il y a à Barcelone des milliers d'appartements vides. Que d'après la crise des subprimes en 2008, que les banques ont reprise, ils font rien avec, quoi.
Voilà. À Paris aussi, il y a à la fois des appartements et même au-delà des appartements, il y a même des tas d'immeubles simplement, d'immeubles de bureaux, etc., qui sont vides et inoccupés. Et si, il y a pas mal de choses qui se passent. Alors peut-être plus c'est moins visible médiatiquement, on en parle moins. Ouais, c'est ça. Pour moi, Casbarian, c'était vraiment quand même une chose aussi qui était comme un message pour les propriétaires et pour voilà les questions. Les questions fiscales, les questions... Voilà, tu vois.
Ouais. Tu as complètement raison, j'ai omis cette... Maintenant que tu me le dis, parce que bon, j'ai pas fait Bac plus 5, et maintenant que tu me le dis, oui, c'est un peu ça va... Je pense qu'en effet que ça va dans ce sens-là, c'est pour rassurer les propriétaires, quoi.
Ouais.
Exactement. Ouais. Comme a dit un pote à Barcelone, il se pose toujours la question de... Tu vois cette mamie hein, qui a 80 ans, qui de sa famille, de plusieurs générations, qui a 5 apparts en location, mais il y en a 2 qui sont vides depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On les squatte ou pas? On la laisse en paix, cette dame?
C'est ça.
C'est toujours délicat aussi. Mais c'est bien de ça. Voilà. Après, chacun voit ce qu'il a à faire. Moi, je n'encourage pas au squat. Moi, j'encourage juste essayer de vivre le mieux possible. Prenez du plaisir, quoi. Parce que là, on est vraiment en train de se faire dégommer, quoi.
Voilà. Alors, une chose aussi qui est abordée dans ton livre, je trouvais que c'était bien que ça le soit là comme ça, c'est alors ce qui est appelé à Amsterdam anti-crack. Anti-crack, je sais pas comment il faut prononcer. En tout cas, nous ici, on parle aussi de d'associations qui sont comme des tiers-lieux, tu sais, c'est-à-dire que lieux.
Ça, c'est un terme que j'ai appris.
Voilà, pour que des lieux ne soient pas squattés, ne soient pas occupés, on demande à des gens, donc là, soit des anti-crack comme tu le cites là, soit des associations même qui viennent et qui font des choses dans ces lieux-là en attendant que.
Oui. Alors, j'ai appris cette semaine.
Oui.
J'ai découvert que ça existait en France. Cette semaine, j'ai eu un témoignage de quelqu'un à Nantes. Que c'est des pavillons, qui sont loués à des étudiants. Des fois, ça va loin. Ils n'ont pas le droit de faire la fête, ils n'ont pas le droit d'avoir de chien. Mais en attendant, c'est un système anti-squat. On loue à pas cher pour avoir une présence. Donc, j'ai appris que ça existe en France. Mais alors, aux Pays-Bas, ça existe depuis très, 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 très longtemps, cette pratique. Depuis 15 ou 20 ans, je crois.
Ouais, c'est ça.
Donc, voilà.
Donc il y a dans les appartements ou des petites maisons, ça peut être des personnes à qui on demande ça, et dans des grands lieux, des bâtiments complets, en tout cas on le voit ici en France, on demande à des associations d'organiser des choses, non pas en logement, mais d'organiser des activités, d'organiser des choses qui s'y passent, de manière à ce qu'il n'y ait pas de... Il n'y ait pas
de... Ah d'accord.
Eh oui.
Je savais pas. Et du genre.
Du genre, je ne vais pas les citer pour ne pas être trop désagréable.
Non, pas des noms, mais quel genre d'activité?
Ah bah non, après ils font venir des associations, ils font venir des... mais c'est un groupe, un tiers-lieu, voilà, ça devient comme un tiers-lieu, mais c'est momentané, c'est pendant trois ans. Bah, par exemple, tu vois, il y a un ancien hôpital là, dans le, près de Denfert-Rochereau, dans le 14e, là, à Paris, qui a été comme ça pendant trois ans, suivi, organisé par une association, laquelle avait pour responsabilité de faire en sorte que tout se passe bien sur les X 1000 mètres carrés qui étaient là, soudainement vides. D'accord, parce que l'hôpital déménageait, et pour éviter que des gens ne viennent s'y installer et ne le squattent.
D'accord.
Donc bon. on met des gentils, puis après on leur dit, bon, alors si tu acceptes, là t'es là pendant trois ans, après si vraiment, on te fera une petite place pour plus tard. Mais en tout cas, pour éviter qu'il y ait du logement, tu sais, pour que des gens ne viennent pas habiter, quoi.
D'accord.
Et pendant ce temps-là, on continue à laisser des gens vivre dans la rue. D'accord, donc toi tu dis, à Amsterdam, c'est depuis longtemps.
Ouais, c'est... Bon, moi, les gens que je connais à l'Obi, c'est depuis très très longtemps. Mmh. Moi, je me souviens quand j'y allais dans les années... début des années 2000, ça existait déjà.
Okay.
C'est une pratique très courante.
Bon. D'accord. Parce que moi, j'avais pensé vraiment qu'au contraire, il y avait eu plutôt des choses... voilà, la propriété privée, c'est vrai que c'est sacré là-bas, comme dans beaucoup d'endroits, mais qu'il y avait quand même moins de violence par rapport au... Du coup, peut-être plus de ruses, et oui, les anti-cracks en font peut-être partie, moins de ruses, pour contrer ça. Oui, ok. Extrait de Anti-Crack, un texte de Marco de mars 2019 à Amsterdam. Les anti-cracks sont des gens qui habitent dans des bâtiments vides pour éviter qu'ils se fassent squatter, parce que tu ne peux pas squatter un bâtiment qui est déjà occupé. Les promoteurs immobiliers embauchent un ou deux anti-cracks et ils leur disent « Hey, vous pouvez vivre ici temporairement, gratuitement, mais si on a besoin de l'immeuble, vous devez déménager dans la semaine ». Peut-être pour aller dans un autre immeuble. C'est une situation très précaire parce qu'ils n'ont qu'une semaine pour bouger. Alors que si tu squattes, tu dois passer en procès avant de te faire expulser. Donc tu es plus protégé par la loi que les anti-cracks. Mais qui accepte ce genre de contrat ? Ce ne sont pas des personnes très politisées, c'est plus par opportunisme ou par besoin d'habiter quelque part qu'ils deviennent anti-cracks. Évidemment, ce sont aussi des victimes de la crise du logement et du manque de logements à des prix abordables pour les étudiants. Et pour les gens à faible revenu, il faut bien qu'ils vivent quelque part. Mais ils acceptent de vivre là avec ces conditions foireuses. En fait, ils sont comme des briseurs de grève. Ils brisent la solidarité, mais ils ne sont pas unis. Ils ne forment pas un réseau solidaire anti-squatteurs. Ils ne peuvent pas recevoir de gens chez eux. Ils ne peuvent pas avoir d'animaux de compagnie. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils ne peuvent pas faire la fête. Il y a beaucoup de règles. Et tu as le droit de manger ? Parfois, tu ne peux même pas cuisiner. Chez le canapé, Barcelone, juin 2020. On m'a demandé d'écrire quelque chose qui se rapproche du mouvement squat. Je l'ai fait depuis mon point de vue externe à ce mouvement, comme une personne qui ne se considère pas du tout comme squatteuse. L'action peut se convertir en poésie, c'est comme ça que je le vois. Et même si c'est pas un concours littéraire, c'est très bien quand même quand les muses t'inspirent et que tu te décides à agir. L'idée de vivre en squattant me paraît hautement séduisante, non seulement pour le fait d'habiter des endroits en désuétude, mais aussi parce que la précarité qu'on nous soumet m'apprend que c'est la manière la plus logique de survivre, de vivre, d'exister. Un jour, je me suis décidée à aller vivre dans l'appartement de ma grand-mère. Je n'avais pas d'argent. Je vivais en couple et je n'avais pas envie de me sentir dépendante de quelqu'un. Cet appartement, j'y avais passé beaucoup de temps de ma vie. La banque l'avait récupéré quelques mois après le décès de ma grand-mère pour pouvoir payer la résidence où elle allait passer ses dernières années. Pendant que ma grand-mère était en vie, l'appart était loué. Chaque fois que je passais devant, j'observais. Depuis l'extérieur, on pouvait voir les meubles de mes grands-parents. la lampe rougie des années 70, les rideaux, la petite table, les chaises en fer du balcon, et petit à petit tout se détériorait, jusqu'au moment où je n'ai plus vu aucun mouvement. Les volets sont toujours dans la même position, le store atrophié parce que personne ne le bougeait, les chaises du balcon qui s'effritaient, les plantes étaient mortes. Papa, maman, l'appart de mamie, j'ai l'impression qu'il est vide, non ? À 14 ans, tout est un peu flou dans ta tête. J'avais peur des souris et des rats et je voulais repartir en Roumanie. On habitait en dessous du viaduc de Valcarca et ensuite on a bougé dans la rue Gomis où ils ont construit un grand parking. J'arrive à Barcelone et je dis à ma mère que je veux repartir. Ma mère me dit que personne ne va repartir, que je vais me retrouver tout seul en Roumanie et que pour un enfant de mon âge, ça n'est pas possible. Nous avons commencé à vivre comme ça dans des baraques façon bidonville et quand nous sommes partis de la rue Gomis, nous sommes allés dans la rue del Mare ou del Col. Là-bas, il y avait un terrain vague sans maison. On a construit des baraquements. Je ne suis pas allée à l'école ici, même pas un jour. En Roumanie, j'y allais. On a commencé à recycler de la ferraille et à gagner un peu d'argent. On a vécu comme ça pendant 3 ans. Quand on a squatté là-bas, la seconde nuit, la police est arrivée. Mais c'était pas la police habituelle, c'était la police nationale. Ils étaient 7 ou 8 dans le solar avec des armes. J'étais encore mineur à l'époque. Et la police, que faites-vous ici? Vous ne pouvez pas rester là. Quand la police s'est pointée, ma grand-mère a commencé à nettoyer pour que la police voie qu'elle était en train de faire quelque chose. J'étais avec mon frère, qui était un peu plus grand que moi. Il a pris un morceau de fer et l'a jeté sur le tas de ferraille. Ça a fait un gros bruit. Les flics étaient super nerveux et ils ont crié « On bouge plus, les mains en l'air !» Après ça, les flics se sont calmés, sont repartis, nous ont laissé vivre là, pendant 6 mois. Les voisins nous provoquaient, appelant la police, nous jetant des ordures et divers objets, mais ensuite, on a été relativement tranquilles. Jamais néanmoins, ils ne sont venus parler avec nous. Bon, ben c'est bien. Et donc là, après, là, ta tournée, ça se poursuit. Tu vas aller... Tu es reçu encore dans d'autres endroits.
Oui, oui, plein d'endroits. Ça n'a pas été difficile de monter une tournée. Ça, j'aurais pu faire 2 semaines de plus.
Ok.
Franchement, et j'ai eu des. On m'a fait des propositions de. Des fois, des villages que je ne connaissais même pas. Mais de tout lieu, il y a même des AMAP. Enfin, c'est des fermes autogérées. C'est assez surprenant. Okay. Bon, bah, je ne peux pas dire oui à tout parce que là, je ne vais pas avoir assez de livres et puis il va falloir rééditer.
Tu vas devoir rééditer, mais voilà, c'est bien.
Et puis,
bien.
Je pars déjà 3 semaines. C'est long parce que j'ai beaucoup de choses à faire.
Bah oui.
Et puis répéter tous les soirs, c'est un exercice pour moi, c'est assez nouveau et
Oui.
C'est bon, chaque jour c'est j'améliore, éprouvant. Tu vois.
Ah oui, chaque jour t'améliores, ben voilà, c'est ça. Ah,
ça s'améliore chaque jour. Là, t'es tombé dans un beau moment, c'est cool. Enfin, j'espère.
Ouais, c'est bien.
Et et on verra. Dans 2 semaines, j'ai encore 2 semaines et après, waouh, je pourrais souffler un peu.
Pourra souffler, d'accord.
C'est et bien, alors, c'est bien. Mais je suis complètement ahuri de l'ombre. Enfin, ahuri, c'est pas non plus, c'est pas Michael Jackson, mais de l'intérêt que portent les gens à ce. Et les gens qui sont dans le milieu ou pas, hein. C'est, j'ai vraiment des gens aussi complètement extérieurs à ce milieu qui l'ont lu, qui m'ont écrit, m'ont dit c'est fou, quoi. Mm-hmm. Voilà. Et ça, c'est ma grande victoire parce que c'est ce que j'espérais aussi. Des gens qui n'avaient jamais entendu parler, qui l'ont lu, m'ont dit mais c'est passionnant, quoi. Mm-hmm. Et je dois dire aussi qu'il y a plein de gens de beaucoup de pays, des Irlandais, des Grecs, qui m'ont acheté le livre, qui ne comprennent pas le français, qui m'ont dit on s'en fout, je le veux, c'est un
tu
livre historique.
Quand même. Ouais.
Ok.
C'est ça. Oui, c'est un documentaire. Ouais.
Alors, moi, mon rêve, ça serait, mais je pense que ça va se faire si c'est traduit en une autre langue. Je pense que ça va pas tarder d'être traduit en catalan.
Ah, bah oui.
Ou en castellan, non.
Ça serait, bah oui, voilà. C'est ça. Ouais.
Voilà.
Super.
Voilà.
Alors.
Mais attention,
oui.
Il reste beaucoup de fautes d'orthographe. Je suis désolé.
Oui, voilà, mais ça fait partie.
Je sais pas si tu t'en as rendu compte.
Oui,
il
oui.
reste des fautes d'orthographe.
Ça dépend des textes d'ailleurs. Mais je sais pas. Oui, bah, c'est pas facile de faire la relecture. C'est un métier.
Non, mais il y a beaucoup de choses. Mais donc là, on a refait une correction. On a enlevé 140 fautes encore. Donc, la seconde
faut
édition,
demander une
140 fautes en moins.
Il faut demander une participation aux gens de tous les fautes qu'ils retrouvent. Ben voilà. Et alors, pour les auditeurs, est-ce que tu peux dire comment on fait pour se procurer ce livre?
Eh ben,
Et ben,
il y a une, il y a un mail, il y a un mail à la fin du livre, c'est satancombravas@riseup.net.
Voilà. Et c'est voilà. Par ce biais qu'on
et
peut
sinon,
se
sinon, il est quand même okay. Dispo dans plein de collectifs, dans chaque grande ville. Il n'est pas couvert sur tout le territoire, hein. Mm-hmm. Mais il y a pas mal de librairies camarades ou, mm-hmm. qui l'ont. Ou si vous avez une distro do it yourself dans votre ville, demandez-leur, ils sauront vous renseigner. Voilà. Si vous l'évitez, et les frais de poste, enfin la poste, pas trop, d'un autre organisme qui livre à ouais. moindre coût. Ouais. Voilà. Voilà.
Bon, bah c'est super. Gros. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Ou est-ce que
je sais pas. Bah c'est tout nouveau pour moi. J'ai eu beaucoup de pression au début. Je veux dire que je veux rester humble avec ça. C'est juste un témoignage. Parce qu'il y a des moments dans des débats, j'ai eu un petit peu aussi des attaques sur certaines choses, des gens, parce qu'il y a toujours des gens qui sont pas d'accord, ou pourquoi certaines choses sont pas représentées.
Tu te reprochais de...
J'ai passé 7 ans, j'ai donné tout mon cœur, c'est pas parfait.
Ben non.
Et puis dans je veux dire aussi, je sais pas si des gens vont venir dans des présentations, mais quand j'explique des choses, ça arrive comme hier, il y a des gens qui connaissent plus le sujet que moi. Mmh. Moi, j'ai pas la prétention de tout connaître et apporter votre contribution, il y a pas de problème. Moi, je vous laisse le micro, on parle, et ça se passe très très bien. Mmh. Voilà. Mmh. Et c'est cool. Et c'est à ça que ça sert aussi.
Les gens te reprochent quoi quand tu dis que les gens te reprochent des choses dans les...
Non, mais il y a toujours des gens qui sont pas d'accord parce qu'ils se disent ça s'est pas passé comme ça ou
des gens qui ont vécu des choses oui,
où il y a pas et c'est certaines catégories sont pas assez représentées ou voilà.
Oui, mais tu n'as pas dit que tu voulais faire une exhaustivité, tu as fait des chroniques donc
ouais,
c'est légitime.
Mais mais tout va bien. S'il n'y a pas de dispute d'engueulade, c'est juste des petites remarques.
Non, j'espère bien.
Tout se passe très très bien. Une très bonne ambiance. Voilà. Je pense que c'est très simple à lire en plus.
Oui. Je vais lire la quatrième de couverture pour les auditeuristes, là, pour qu'ils voient justement ce qu'on dit là.
Ouais.
Ce que tu écris, c'est « Toutes ces aventures de squat aussi dramatiques, briseuses d'individualité et hardcore qu'elles ont pu être, c'est avant tout de fortes histoires humaines, absurdes, intenses et violentes parfois, mais souvent belles. Je n'inclus évidemment pas les keufs et les huissiers dans cette histoire, car n'en déplaise aux babos qu'on embrasse bien fort, deux jambes et deux bras ne font pas forcément de nous des êtres humains. Tant qu'il y aura des promoteurs, il y aura des squatteurs. » Tant qu'il y aura des squatteurs, il y aura de l'espoir. Big up à tous ceux et toutes celles qui ne lâchent rien. Voilà.
Voilà.
Et bien,
oui, je ne savais pas mettre comme quatrième de couverture. Et puis, je ne l'ai pas choisi moi-même, mais du coup, c'était un bon choix. C'est sympa.
Ouais, c'est sympa.
Voilà.
Écoute, merci beaucoup en tout cas de toutes ces informations
et
de nous avoir partagé
merci.
Ça avec nous. Et puis on te souhaite une bonne tournée, mais aussi un peu de repos après pour pouvoir repartir sur d'autres
projets. Bah après, il y aura d'autres projets, ça continue.
Voilà. Merci à toi.
Merci à toi. Je te remercie.
À bientôt.
À bientôt.